6h45, vous écoutez France Culture et c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux avec vous, Xavier Martinet. Bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, on va avoir besoin d'un peu d'histoire aussi avec cette ville Chemnitz scindée en deux, une population polarisée et de fortes divisions au sein du gouvernement allemand. Un an après les élections fédérales, l'Allemagne, on n'est pas sorti de la crise politique, au contraire, et on en parle avec vous Hélène Millard de la Croix, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone avec vous. Justement, vous êtes historienne, spécialiste de l'Allemagne, professeure à la Sorbonne et en direct depuis Munich. Alors, depuis deux semaines, on le voit, le rejet des migrants et la xénophobie s'expriment ouvertement à Chemnitz, dans la Saxe. Les mouvements et les partis Pegida et AfD se mêlent aux manifestants pour promouvoir ce qu'ils appellent une colère légitime. Et les violences contre migrants et extrême gauche ont atteint une ampleur inédite. Pour le gouvernement, il apparaît plus fragile que jamais, ce gouvernement allemand. Hier encore, Angela Merkel et son ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, s'opposaient et déjà menacés d'explosion. Les fissures au sein de la coalition persistent, elles s'élargissent même. Angela Merkel, clairement, fait désormais figure de repoussoir pour une partie de la population, un peu à la manière de Hillary Clinton. Et surtout, cet événement confirme la montée en puissance des mouvements ultra. L'AfD, pour la première fois, les sondages le donnent gagnant devant le SPD au niveau national. 17% alors que c'est 16% pour le SPD. Ajoutez à cela une nouvelle formation à gauche qui s'appelle Aufstehen, on en dira un mot. La perspective est déstabilisante à un mois des élections en Bavière et avant des élections dans trois Länder de l'Est l'été prochain. Alors la polarisation est-elle inéluctable en Allemagne? Si on peut avoir votre appréciation sur les événements de Chemnitz, cette ville de la Saxe avec très peu d'étrangers avant 2015 et qui a déjà un passé quand même d'extrême droite.
Oui, en effet. Alors le tableau que vous venez de dresser fait en effet peur et donne l'impression non seulement d'une polarisation, mais j'allais presque dire d'une radicalisation dans le propos. Vous avez évoqué la droite extrême, la droite populiste, et puis vous avez évoqué aussi la gauche avec Aufstehen, ce mouvement qui vient d'être lancé et qui a surpris un peu tout le monde avec Madame Wagenknecht en mettant en avant que la question migratoire était finalement au cœur du débat et qu'il fallait protéger les Allemands contre des développements qui leur seraient hostiles. Alors, c'est vrai que en ce moment, tout le monde ne parle que de cela. La question des réfugiés est au centre. Et hier, le ministre fédéral de l'Intérieur, Seehofer, le patron, jusqu'à pas très longtemps le patron de la CSU, a même commis une phrase étonnante en disant que l'arrivée des réfugiés était la mère de tous les problèmes en Allemagne. C'est-à-dire qu'on ne parle de rien d'autre, il n'y a pas d'autres difficultés. Alors, si on veut dire qu'il y a une radicalisation à droite et à gauche, c'est peut-être un petit peu simplifier les choses, parce qu'il faut quand même, je crois, bien distinguer deux phénomènes.
Oui.
Je crois qu'il y a une différence de qualité, si vous voulez,
alors,
ou de nature.
Justement, là, vous avez évoqué ce qu'on pourrait appeler les remous, ou alors la superstructure plutôt politique. Mais si on en revient à Chemnitz quand même, ces événements, qu'est-ce qu'ils révèlent? Est-ce que c'est une situation locale ou un reflet du sentiment national? On peut le dire encore une fois, Chemnitz en Saxe, c'est pas n'importe quelle zone de l'Allemagne quand même, une zone un peu en déshérence ou déshéritée, disons.
Alors ça montre les deux, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, si vous voulez, comme si on passait au microscope à Chemnitz, quelque chose qui est un petit peu subcutané, un petit peu en Allemagne partout, c'est-à-dire une montée dans une partie de la population, d'un rejet absolu, critique absolu de tout ce que font les partis au gouvernement, c'est-à-dire que ce soit le centre-droit, le centre-gauche qui travaillent ensemble au niveau fédéral, et une tentation pour des solutions simples, simplistes, que propose l'extrême droite qui s'est engouffrée dans cette affaire depuis l'arrivée des réfugiés. Oui. Surtout, ce qu'a montré Chemnitz, là, c'est que l'AfD a montré une proximité idéologique et organisationnelle avec des groupes d'extrême droite qui existent en Saxe depuis longtemps. Et c'est là qu'il y a la spécificité de la Saxe, c'est que depuis le début des années 90, et même d'une certaine façon en continuité avec la RDA, où l'on n'en parlait pas, il y avait des groupes punk et des groupes d'extrême droite, il y a dans cette région une organisation de néo-nazis, de hooligans, comme on les appelle en Allemagne, que l'on a d'une certaine façon toléré, c'est-à-dire on a pudiquement regardé ailleurs. Le parti d'extrême l'extrême droite, le NPD, a eu il y a une dizaine d'années des vrais succès électoraux, a été présent dans les chambres régionales, a perdu finalement un certain attrait quand les électeurs ont vu qu'il n'y avait pas vraiment élu des gens efficaces dans les débats électoraux, mais les électeurs sont restés et les idées sont restées. Donc on a en Saxe un problème qui cristallise les restes d'un battage en RDA, d'une dictature nazie à une dictature socialiste, oui, et une difficulté à entrer dans la démocratie parlementaire et dans la démocratie de l'échange où l'on respecte l'interlocuteur et si on n'est pas d'accord avec lui, on ne le vomit pas dans la rue.
Oui, oui. Déjà d'ailleurs pour les violences, en 2015, 17% des attaques contre les centres de réfugiés, c'était aussi un tiers des manifestations. Mais alors, est-ce qu'on peut dire cette situation de prégnance au point qu'il y a une emprise sur les structures régionales? Il y a eu deux affaires de collusion avec la police, notamment une justement à Chemnitz où un membre de l'administration pénitentiaire aurait fait fuiter les mandats d'arrêt contre les deux personnes, les deux migrants qui ont tué l'Allemand, point de départ des manifestations.
Alors c'est ce qui crée des remous beaucoup aujourd'hui, et on parle vraiment beaucoup de cela, parce qu'en effet, au-delà du fait qu'il y aurait donc à l'Est une plus grande sensibilité pour un certain nombre de thèses simplistes, xénophobes, hostiles, et ne regardant pas très très loin, parce que si on regarde ce que font les résultats de la politique des populistes en Autriche, c'est pas tellement à l'avantage des petites gens, et il y a en même temps... On découvre que ces gens ordinaires qui ont tendance à avoir une tentation pour des solutions d'extrême droite autoritaire, eh bien, ils ont aussi des positions. Ils se trouvent dans la police, ils se trouvent à des positions plus ou moins élevées dans la justice, et ça remue beaucoup en Allemagne actuellement. Et c'est en effet peut-être un moment, peut-on l'espérer, de réveil. Où beaucoup de gens vont se dire « bon, mais non, c'est pas possible, il faut se lever, aller dans la rue, donc c'est contre-manifestation, et c'est volonté de mettre en avant la loi fondamentale jusque dans la rue par terre pour montrer que non, le cœur de ce pays, c'est de vivre dans la tolérance et dans la liberté. »
Et alors précisément, il y a...
l'extrême gauche, ça.
Ouais. Non, je disais précisément, il y a eu une grande manifestation organisée lundi dernier, une contre-manifestation d'ailleurs à laquelle appelait Heiko Maas, le ministre des Affaires étrangères SPD allemand. Si d'un côté, comme on le disait, il y a un gouvernement qui est quand même assez désorganisé, avec des positions pas forcément cohérentes à la tête de ce gouvernement, si de l'autre côté, il y a un renforcement de l'AFD et de Pegida, surtout donc l'AFD en tant que parti, est-ce que il y a une perspective de victoire pour lui en Bavière à plus long terme dans les prochains Länder, ou est-ce qu'il a atteint un point maximal, disons, de son opportunisme, hein, pour le dire comme ça?
Alors ça, on le saura quand les élections régionales auront eu lieu. Vous évoquez la question des élections en Bavière, qui a lieu en effet le 14 octobre, c'est-à-dire très bientôt. On est en campagne électorale en Bavière, et ça explique aussi la présence dans les médias et dans les images des différentes formations politiques. Ça, il ne faut pas l'oublier. En Allemagne, c'est une caractéristique de ce pays, on est toujours en campagne électorale parce qu'il y a toujours des élections quelque part. Ouais. Et ce que fait l'AFD actuellement, c'est aussi un message à envoyer dans la campagne électorale de Bavière, où le parti essaie d'arriver en deuxième position et de débranler les positions de la CSU au pouvoir. Donc ça c'est très clair. Mais c'est aussi le cas des différents autres partis qui essayent, et c'est la maladresse de Seehofer, si on appelle ça une maladresse, si ce n'est pas la révélation du stylet, montre aussi que la CSU a très très peur de perdre non seulement sa majorité absolue, ce qui est à peu près certain, mais de perdre son électorat qui partirait à l'AFD. Alors ce que va devenir l'AFD, ça va dépendre aussi de la façon dont les gens vont réagir à ce vrai visage qui a été montré avec des bras levés dans la rue et des proximités qui ne sont pas acceptables encore pour une partie de la population. Mais je ne peux pas vous dire ce qui va se passer.
Et précisément, avec ce contexte électoral permanent, est-ce qu'il n'y a pas, juste en un mot, ce qu'on voit aussi dans cet épisode, disons, une partie électorale qui apparaît un peu trop dans les discours politiques et cette pression électorale qui paralyse un peu le gouvernement ou les autorités ?
Ah, ça, c'est certain. Ça, c'est une caresse vérifiée, quelque chose qui différencie nos deux pays. C'est-à-dire que, en France, une fois que les élections ont lieu, on peut ne pas être d'accord, on discute, mais on n'est pas toujours dans l'envoi de messages à destination des électeurs qui vont voter la semaine prochaine ou dans un mois. Mais on le voit aussi dans ce qui se passe, plutôt du côté gauche du paysage politique. Donc, de proposer une autre alternative, c'est vrai que le mot alternative, là, il est très présent dans les débats, dans les affiches. Si vous, là, je suis à Munich actuellement, les affiches ne font que proposer autre chose que ce qu'il y a actuellement. Il y a assez peu. Alors la CSU essaie de dire on va continuer, mais on va faire mieux. À gauche, il y a l'idée de proposer une alternative qui soit crédible et qui ne soit pas hostile aux valeurs fondamentales de l'Allemagne, de l'Allemagne, ni violente telle qu'elle est. Sauf que là, ça bouleverse complètement le paysage politique, parce que ce qu'est en train de faire Mme Wagenknecht avec Hauptstädt, c'est tourner le dos absolument à la tradition de l'internationalisme du mouvement ouvrier allemand, où on accueille les immigrés.
Et vous l'avez dit, partie à surveiller Hauptstädt. Merci beaucoup Hélène Millard-Delacroix.